France Inter. Mes parents m'ont toujours dit qu'il fallait pouvoir le soir raconter sa journée à la personne qui partage votre vie. Pas seulement en surface, mais en profondeur, par le menu. Sinon, c'était couru, c'était l'ennui garanti. En amitié, c'est différent. Nathalie Azoulay, ce soir notre invitée, à l'occasion de la publication de son nouvel ouvrage intitulé « La fille parfaite », et comme chaque soir, nous allons commencer en musique, et ça sera avec une des musiques de ce livre, Freddie Mercury, « The Show Must Go On ».
Spaces, what are we living for? Abandoned places, I guess we know the score. On and on, does anybody know what we are looking for? Another hero, another mindless crime behind the curtain.
sinistre, lugubre ou plutôt très joyeuse, cette chanson de Freddie Mercury ?
Ouais, c'est triste quand même, c'est une sorte de requiem, c'est la chanson sur laquelle il finit sa carrière et qui annonce sa mort, donc non, c'est une chanson plutôt sombre.
Bah, drôle mais... d'idée pour votre héroïne de la choisir comme chanson pour commencer sa fête de mariage.
Oui, c'est d'ailleurs ce que dit celle qui raconte l'histoire, son amie Rachel. C'est vrai que Adèle choisit cette chanson parce qu'elle a une passion pour Freddie Mercury et qu'elle a une passion pour sa part d'ombre, pour sa part de féminité, pour la délicatesse et la puissance qu'il y a dans le chez ce chanteur et qu'on entend dans cette chanson d'ailleurs. Donc c'est vrai que parfois Adèle a des idées très bizarres.
Adèle, vous l'avez rencontrée ?
Pas du tout. Dans ma tête.
Comment ?
Oh, elle est faite d'une multitude de silhouettes que j'ai pu croiser, avec lesquelles j'ai pu discuter. C'est une fille à laquelle je pense depuis longtemps, qui est sans doute aussi une espèce d'hommage à plusieurs amis que j'ai eus, qui n'étaient pas du tout comme elle, mais qui avaient des traits communs. Mais non, je l'ai créée, Adèle.
Vous l'avez créé de toutes pièces à l'intérieur de votre imaginaire.
Oui, je vous dis, avec des rencontres qui ont pu me l'inspirer, mais qui jamais n'épousaient tous les contours de ce personnage que j'ai voulu sciemment à la fois doter de plein de qualités, d'excellence, de réussite, mais aussi de bizarreries, voilà, comme cette chanson qu'elle choisit pour ouvrir le bal, comme des lubies qu'elle a quand elle veut devenir une sirène en piscine. Comme tout un
ça, toutes les petites filles veulent devenir sirènes, peut-être
ah oui.
Vous aussi.
Mais les petites filles, mais pas les petites filles comme elles. C'est-à-dire pas les petites filles qu'on a dressées aux échecs, aux énigmes mathématiques et aux exercices de logique. Donc, chez elles, c'était très transgressif de vouloir devenir une sirène. Mais quand elle veut devenir une sirène, c'est pas pour être une petite fille délicate, c'est pour être une créature puissante.
Et, une vraie sirène, quoi.
Ouais, une vraie sirène, avec des attributs musculaires, avec cette puissance de nager en eau profonde, en apnée, et d'onduler comme ça avec un corps particulièrement caréné pour fendre les eaux.
Combien y a-t-il d'Adèle en nous ?
Ce serait bien qu'il y en ait au moins une déjà. Mais Adèle elle-même est faite de plusieurs filles, donc je sais pas, ça dépend de chacune d'entre nous.
Alors en exergue de ce nouveau livre, Nathalie Azoulay, vous avez mis une phrase de Ludwig Wittgenstein, une lettre à sa famille. Je la cite, « Nous sommes tous des morceaux plutôt durs, aux arêtes coupantes, qui ne peuvent donc difficilement se nicher les uns contre les autres. Ce n'est confortable entre nous que lorsque nous nous sommes dilués par des amis. » Et je me suis dit, pourquoi cette notation philosophique, à l'intérieur d'un livre qui est dans un registre complètement romanesque et assez cruel ? Et je me suis demandé si la littérature, pour vous, c'était aussi une manière de reconstituer les morceaux et de se nicher les uns contre les autres.
Oui, absolument. C'est une façon de recoller les morceaux et de trouver de l'harmonie dans ce recollage. Alors, la phrase de Wittgenstein vient d'une correspondance. Donc, en fait, ce sont des lettres qu'il s'échange avec ses sœurs. Elle n'est pas issue d'un recueil philosophique. Mais, comme vous savez, c'était une famille nombreuse, une famille difficile. Et j'aime beaucoup cette phrase parce que il existe beaucoup de familles où, malgré l'amour, malgré l'attachement, on se cogne les uns contre les autres et les contacts sont âpres. Et dans cette phrase, il y a ces arêtes tranchantes, coupantes, qui se heurtent les unes aux autres quand on est au sein d'une même nichée. Et normalement, les amis qu'on se choisit viennent mettre un peu d'aise là-dedans, viennent mettre du molleton et viennent mettre, oui, du confort. Dans mon livre, Adèle et Rachel, qui sont des amis qui peuvent vivre des choses difficiles en famille, cherchent aussi une sorte de confort qui va lui-même redevenir tranchant, en fait. Donc, c'est un confort qui ne dure pas et qui va se heurter à des tas de difficultés, de douleurs, de souffrances, de ruptures. Et si bien que, finalement, il y a, dans cette phrase de Wittgenstein, une fausse promesse.
Dans toutes les familles, les parents ont tendance à assigner des identités à chacun des enfants. Et là, il va y avoir deux identités opposées. Une fille qui est plutôt mathématicienne, logique, théoricienne, et puis l'autre qui est plutôt littéraire. Et vous, quand vous étiez petite, vous étiez quoi ?
Je crois que je n'étais ni l'un ni l'autre stricto sensu. J'ai grandi dans une famille où m'avaient précédé des enfants qui avaient fait des études plutôt scientifiques. Et moi, j'ai fait des études littéraires parce que j'ai fait des rencontres qui m'ont amené à le faire. J'avais un esprit très solitaire et très imaginatif. Mais je crois que l'imagination n'appartient pas à la littérature. Je crois que quand on fait des mathématiques, on a besoin d'imagination aussi. Donc je pourrais pas dire que j'étais un enfant plutôt ceci ou plutôt cela. Il se trouve que j'ai emprunté après une voie résolument littéraire.
Et quand a commencé l'écriture, le désir d'écrire ?
Le désir d'écrire a commencé quand j'ai eu 30 ans à peu près. C'est-à-dire quand j'ai eu mon premier enfant qui a été une espèce d'ouragan intérieur, émotionnel, et qui a déclenché en moi tous ces élans vers l'écriture.
Il y a plusieurs cycles d'écriture à l'intérieur de votre travail d'écrivaine, Nathalie Azoulay. Il y a eu le premier cycle où vous étiez plutôt, disons, une sociologue du contemporain. L'écriture servait à décrire les temps que vous traversiez, des temps plutôt militants. Et puis ensuite, il y a eu peut-être à la base une réflexion sur ce que veut dire lire. Et en tant que lectrice, vous avez été tellement bouleversée par l'œuvre de Racine que vous avez écrit ce livre magnifique qui s'intitule « Titus n'aimait pas Bérénice ». Et puis là, aujourd'hui, c'est peut-être un troisième cycle d'écriture où il y a une formalisation, un jeu avec les mots, un jeu avec les personnages et aussi un jeu avec les sentiments. Et là, on revient à Ludwig Wittgenstein. Est-ce que la littérature, c'est essayer d'adoucir les côtés coupants qu'on a les uns avec les autres ?
C'est d'abord de les regarder, en fait. Ce qui m'intéresse toujours quand je commence un roman, c'est d'identifier un objet, une scène, une situation, une relation, comme ici, et de regarder de très très près, sous toutes les coutures, l'objet qui est devant moi. Et à partir de là, de l'explorer, d'essayer de le comprendre, de le secouer, de le mettre dans d'autres configurations, pour finalement lui donner le maximum de clarté possible. Et cette clarté, pour moi, est en effet une source d'apaisement. C'est-à-dire que la compréhension vient, l'intelligence de l'objet grandit.
Et c'est le mouvement même de l'écriture qui provoque cela.
Oui, l'écriture est pour moi un instrument d'éclairage et de connaissance. Donc en fait, plus j'écris sur des personnages qui eux-mêmes portent des thèmes existentiels, et plus je comprends ces thèmes. Pour ce qui est de la fille parfaite, je regarde quand même l'époque. Je regarde l'époque où on demande aux filles d'aller dans tous les domaines, où on leur permet d'aller dans tous les domaines, et où elles ne... On les encourage, mais il y a des bastions qui restent encore très fermés, non pas parce qu'on les ferme, mais parce qu'elles n'y vont pas. Et je me demande pourquoi. Et
vous voulez dire les maths, par exemple.
Oui, par exemple les maths, les sciences dures, où elles sont quand même encore minoritaires.
Parce qu'elles n'osent pas croire qu'elles peuvent l'être. Alors, mathématiciennes.
Il y a des tas d'hypothèses possibles. Il y a des hypothèses culturelles, historiques, évidemment, d'habitude. Il y a même des hypothèses génétiques, bon, mais je crois qu'elles ne valent pas grand-chose. Mais il se trouve qu'il y a une éducation des filles qu'on donne toujours aujourd'hui, qui est que les filles doivent s'occuper de relations, de contacts, et être en rapport avec l'autre. Et à une époque où la science est si cruciale, on l'a vu avec la crise sanitaire, mais on le voit tous les jours dans tous les domaines de la vie avec l'intelligence artificielle, je me dis qu'il y a un angle mort et que les filles doivent y aller aussi pour prendre plus de place, pour occuper toutes les places, parce que la science donne un pouvoir que la littérature ne donne pas toujours.
Alors, on va pas spoiler l'histoire de la fille parfaite, parce qu'il faut laisser aux auditrices et aux auditeurs le choix de la découvrir, cette histoire-là. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'il s'agit d'énigmes, pas seulement d'énigmes mathématiques, et que le livre se termine par une enveloppe à l'intérieur de laquelle il y a une lettre qui est une succession de questions. Quelle est la plus grande énigme pour vous, Nathalie Azoulay ?
Je dirais qu'il y en a plusieurs, mais si je veux me rapprocher de cette histoire-là, je dirais qu'il y a une énigme qui me tient particulièrement à cœur, qui est l'énigme de l'intelligence. Qu'est-ce qu'une intelligence ? Qu'est-ce qu'un esprit bien fait ? Est-ce que l'intelligence suffit à vivre ? Est-ce que l'intelligence permet le bonheur ? Évidemment pas toujours. Mais de quoi est faite l'intelligence ? Comment viennent les idées ? Comment se créent-elles ? Comment l'esprit invente-t-il ? Je crois que ça, c'est une énigme pour moi qui est toujours aussi vivace et aussi précieuse.
Vous avez peut-être eu une carrière de mathématicienne non accompli.
Bah, j'aimais beaucoup les maths quand j'étais au lycée. J'ai fait des études, enfin un bac scientifique, donc j'aimais ça. Mais non, j'avais pas de passion particulière. Je crois que je regrette pas du tout d'avoir choisi la littérature. Mais les maths m'intéressent beaucoup et les gens qui en font m'intéressent beaucoup et les filles en particulier.
Est-ce que le fait de d'écrire par des mots des choses qui vous arrivent dans votre tête et de les mettre en ordre, que ça soit justement des équations mathématiques ou des histoires d'amour ou des histoires d'amitié, vous aide à organiser le monde et à vous calmer et à vous consoler?
Alors je dirais que tout ça m'aide à m'organiser moi. Le monde, c'est encore une autre histoire, mais moi, déjà, c'est pas si mal.
Pourquoi? Parce que c'est le chaos à l'intérieur?
Parce que c'est, non, le chaos peut-être pas. Je pense que c'est surtout l'anxiété, l'angoisse, la peur, la crainte.
La crainte de quoi?
La crainte de l'avenir, la crainte de tous les instants. Je crois que je suis quelqu'un de très anxieux, donc forcément, ça crée un peu de désordre et un peu d'agitation. Et donc la littérature, en tout cas, me crée une bulle dans laquelle je trouve une forme de calme, une forme de retranchement, de solitude, d'apaisement. Même s'il y a de la difficulté, même si même parfois c'est une épreuve, il n'empêche que ça crée un monde dans lequel je suis avec moi-même assez tranquille. Donc c'est déjà pas si mal si j'arrive à faire ça. Et c'est vrai que quand je n'écris pas de livre, je suis encore plus agitée que quand j'écris un livre. Donc j'ai besoin de cet enfermement qui est protecteur d'une certaine manière. Et après, c'est vrai que comme j'aime écrire des livres qui regardent le monde, il y a des thèmes que je travaille dans le roman et qui, une fois que le roman est terminé, sont un peu apaisés. C'est-à-dire que peut-être ça organise une partie du monde à l'extérieur, mais pas tout.
Je vous propose d'écouter la voix de Charles Julliez sur le journal intime. C'est une archive INA du 9 avril 2012. C'était au micro de François Bunel.
Lorsque j'ai commencé à l'écrire, je ne savais pas trop ce que je faisais. Donc, pendant plusieurs années, j'ai pris des notes comme cela, sans trop vraiment savoir ce que je poursuivais, ce que je cherchais. Et puis, c'est très longtemps après plusieurs années, que j'ai compris que je me servais de l'écriture pour, en fait, pour me connaître profondément, et en fait pour me transformer. Parce que, en vivant, je m'étais rendu compte que j'avais une certaine personnalité, mais qui avait été façonnée par les différents milieux dans lesquels j'avais vécu, c'est-à-dire d'abord un milieu paysan, et puis ensuite le milieu militaire, puisque de 12 à 23 ans, j'ai porté un uniforme militaire. Donc forcément, au cours de ces années-là, tout un tas de choses se sont exercées sur moi, m'ont marqué, m'ont influencé. Et je sentais donc que cette personnalité que j'avais acquise ne me reflétait pas. Je m'y sentais à l'étroit. Donc j'ai eu à travailler, à l'éliminer, pour partir à la rencontre de celui que j'étais, mais que je ne connaissais pas. Donc j'ai eu à me transformer pour devenir moi-même.
Nous venons d'entendre la voix de Charles Julliez à propos de son journal. Et j'ai l'impression que pour vous aussi, Nathalie Azoulay, l'écriture est une sorte de dépassement de ses propres possibilités, de découverte, qui peut être dangereuse d'ailleurs, d'aspects de sa propre personnalité ou d'élucidation de pans de sa propre individualité qu'on ne connaissait pas avant. Est-ce que l'écriture est pour vous une sorte de mise en danger, ou en tout cas une tentative de mise en danger ?
Alors je dirais que la mise en danger, c'est le projet littéraire, c'est-à-dire le projet formel et le défi que je me fixe avant de me lancer dans le roman, où j'ai l'intuition que je veux écrire une forme un peu différente, nouvelle, que je ne veux pas me répéter par rapport au livre d'avant.
Et ça, on peut pas dire que vous vous répétiez, parce que chaque livre est un étonnement par rapport à la lectrice que je suis de vos livres. Jamais dans le même registre.
Non, mais en fait, c'est parce que j'ai peur de m'ennuyer, puis j'ai peur d'ennuyer le lecteur, donc j'aime bien changer, sinon, j'ai l'impression de pas explorer toutes les possibilités, et j'ai un gros appétit en littéraire. Quand je commence et que la forme donc n'est pas encore tout à fait maîtrisée, n'est pas encore très sûre, oui, il y a une forme de danger. Mais je rejoindrai assez les paroles de Charles Julliez pour dire que ça m'aide à me connaître. Ça m'aide à me connaître. J'ai des intuitions de choses qui me hantent, qui m'animent, qui m'angoissent. Et grâce à l'écriture, je les regarde, comme je disais tout à l'heure, plus clairement, je les déplie, je les déploie. Et finalement, à la fin du roman, il y a des choses qui sont calmées et qui sont, et avec lesquelles je vis mieux. Et ça a été le cas pour ce roman, parce que ce roman fait quand même état d'un tiraillement très, très ancien chez moi, entre plusieurs façons d'être une fille et plusieurs intelligences possibles du monde.
Alors, plusieurs façons d'être une fille, vous l'aviez déjà déployée à l'intérieur de Titus n'aimait pas Bérénice, avec le personnage qui vous ressemble ou pas d'ailleurs, hein, je ne sais pas s'il y a une part autobiographique à l'intérieur de ce texte, mais en tout cas, il y avait une fille qui vivait un chagrin d'amour et qui va trouver un peu de sens à son existence après avoir traversé une grave dépression en lisant « Racine ». Vous avez publié il y a quelques mois un livre très pétillant, très pétulant, violent dans le bon sens du terme, qui s'appelle Juvenia, et où vous mettez en scène une galerie de personnages féminins qui n'ont qu'une seule obsession, comme le titre l'indique, c'est non seulement de rester jeunes, mais de paraître plus jeunes qu'elles ne le sont. Est-ce que c'est une obsession? Est-ce que ça correspond à une définition de la littérature pour justement pourfendre le girly qui sévit sur le CAC 40 des émotions féminines? Est-ce que c'est une des fonctions de la littérature de nous alerter là-dessus?
Ben, je crois que pour moi, la littérature sert toujours à allumer la lumière sur un phénomène. Et quand j'ai écrit Juvenia, j'avais quand même...
C'est une sorte de conte.
Ah oui, c'était un conte satirico-érotique, je sais pas très bien comment le qualifier, mais oui, je me suis amusée à un exercice nouveau pour moi, qui n'est pas un roman où mes personnages sont là pour incarner des idées, des thèmes, des situations, mais je ne les ai pas creusés comme des personnages de roman. Mais l'idée, c'était de mettre en scène des femmes qui refusent d'être obsolètes, qui refusent l'obsolescence programmée, voilà.
Comme les machines, comme les ordinateurs.
Absolument, et qui décident que, malgré l'âge mûr, elles vont continuer à avoir une vie libre, sexuelle, amusante, audacieuse, culottée même, et elles vont explorer toutes sortes de réorganisations sociales et sexuelles, et s'amuser avec ça pour prouver que, quand on est un homme mûr, on n'est pas obligé de se tourner vers des jeunes filles.
Non, mais ça marchait pas mal, hein. C'était un livre plutôt optimiste.
Ah oui, parce que les femmes que je mets en scène s'en sortent très bien.
Et donc, tout est possible quand on est une femme, sauf d'être mathématicienne.
Mais non, mais ça aussi, c'est très possible. Non, c'est très possible et j'espère que ce le sera de plus en plus parce que les mathématiques sont un domaine formidable et qu'il faut faire des maths aujourd'hui pour comprendre le monde parce qu'il y a des mathématiques dans nos machines, dans nos téléphones, dans tout ce qu'on fait. Donc, tant mieux si les filles font plus de maths. Mais mon personnage est un personnage mystérieux, avec des blessures qui ne sont pas tout à fait élucidées à la fin du livre, et qui donc vit les choses d'une manière plus tragique. Mais non, on peut être femme et mathématicienne.
En tout cas, quand on lit un livre, bien souvent, on essaye de repérer les failles autobiographiques. C'est peut-être stupide, mais c'est comme ça. Et en lisant La fille parfaite, livre qu'on a essayé de me voler à plusieurs fois parce que les filles qui l'ont vu traîner m'ont dit c'est moi. Je vous signale que c'est un très bon titre pour un livre qu'on a envie d'avoir pour soi. Eh bien, à plusieurs reprises, la question était de savoir s'il n'y avait pas une petite part autobiographique dans le personnage de Rachel. Mais avant que vous ne répondiez, je vous propose d'écouter la voix d'Emmanuel Carrère qui répond à la question « L'écriture est-elle une tentative de compréhension de soi-même ?» C'était le 7 septembre 2020.
J'espère pas que. Il me semble que dans les livres, malgré tout, que ce qui pousse à écrire des livres, c'est à la fois de comprendre un peu mieux ce qui est soi et de comprendre un peu mieux ce qui n'est pas soi. Évidemment, comme ça, eh bien, de ce truc binaire, on couvre à peu près tout le terrain. Il y a soi et pas soi. Alors, moi, j'ai un peu tendance à écrire des livres qui qui parle de moi, mais j'espère pas que, j'espère en parlant de moi, essayer de parler des autres et aux autres aussi. J'espère, hein, ça c'est peut-être un vœu pieux, hein, peut-être que je dirais, on m'a quelquefois, voire souvent, accusé de nombrilisme ou de narcissisme, et voilà, je peux difficilement me dérober à ces reproches, mais je pense tout de même que parler de soi avec honnêteté permet de parler aux autres, est un bon chemin pour parler aux autres. Je me souviens, il y a une phrase comme ça qui est très belle de Lévinas qui disait le meilleur chemin pour aller vers soi passe par les autres. Et cette phrase est très belle et très juste, mais elle est totalement réversible. On peut dire tout aussi bien que le meilleur chemin pour aller vers les autres passe par soi, qu'on a besoin de passer par soi, ou en tout cas qu'une certaine catégorie de gens ont besoin de passer par eux-mêmes pour accéder à un rapport à autrui.
Alors y a-t-il un peu de Nathalie dans le personnage de Rachel ? Y a-t-il un peu de Nathalie dans l'évocation d'une partie de l'amitié entre Adèle et Rachel quand elles se retrouvent en Angleterre et qu'elles se tapent des mecs, qu'elles choisissent, et c'est le pied ?
Oui, bien sûr. Bah, il y a une part de moi dans tous mes personnages, sinon je n'arrive pas à les modeler. Donc, au départ, il y a une inspiration qui vient toujours de quelque chose de très profond et de très intime qui est en moi. Alors, est-ce que Rachel me ressemble plus qu'Adèle ? Oui, apparemment, extérieurement, puisqu'elle fait la littérature et qu'elle est écrivain. Mais au fond, je crois que je me répartis entre elle et même dans d'autres des personnages du roman. Et finalement, ce qui m'intéresse, c'est cette relation. C'est cette amitié passionnée, passionnelle, fusionnelle, et en même temps jalouse, et en même temps compétitive et rivale. Et c'est tout ça qui m'anime et que j'ai voulu explorer. Et ça m'appartient, oui.
Vous écoutez France Inter, vous écoutez L'Heure Bleue, vous écoutez le choix musical de Nathalie Azoulay, Frangine d'Anne Sylvestre.
Ce fut à l'école déjà qu'on fit de nous des concurrentes. On se regardait chien et chat, on détestait les redoublantes. Souffre-douleur ou bien faillotte, on se poussait toujours plus haut. On s'arrachait les bonnes notes, on pleurait devant le tableau. On aurait pu rester Frangine, ça nous aurait gagné du temps. Au coude à coude, j'imagine qu'il n'aurait pas fallu longtemps pour qu'on soit toutes aussi bonnes, malgré les pionnes et les parents. Ensuite, en face des garçons, commença la grande offensive. On se fabriquait des façons, des rendez-vous sur l'autre rive. Et grande bringue ou blanche neige, c'était à qui amènerait tous les boutonneux du collège à l'accompagner sur le quai. On aurait pu rester Frangine, ça nous aurait gagné du temps. Bras dessus, dessous, j'imagine qu'on aurait de ces débutants avant que la vie les assomme, puis faire des hommes, pas des enfants. Un peu plus tard, c'est la beauté qu'on nous érigea en barrière. On se retrouvait insultés si on n'était pas la première. Nos amitiés faisaient sourire, fallait nous crêper le chignon. Et tout ce qu'on pouvait se dire n'était que fadaise ou chiffon. On aurait pu rester Frangine, ça nous aurait gagné du temps. Main sur l'épaule, j'imagine qu'on aurait pu, se regardant, voir qu'on était toutes assez belles, et même celles qui ont pas le temps. C'est tout pareil dans nos métiers, on nous oppose et on nous monte en épingle pour mieux montrer qu'on se trouve en dehors du compte. Pour peu qu'on dépasse la tête, on est toujours une exception, chacune sur notre planète, ce qu'on a pu tourner en rond. Si on se retrouvait Frangine, on n'aurait pas perdu son temps, unis
sans nos voix, j'imagine qu'on en dirait 20 fois autant et qu'on ferait changer les choses. Et je suppose aussi les gens et qu'on ferait changer les choses. Allez, on ose, il est grand temps.
J'admire beaucoup Virginia Woolf, qui d'ailleurs, je crois, était influencée elle-même par Proust. Peut-être pas par Joyce, qu'elle n'aimait pas beaucoup. C'est un univers poétique qui est assez très différent du mien, bien qu'elle se serve aussi d'images. C'est que c'est un univers de conscience, et une conscience ouverte, à travers laquelle s'engouffre le monde entier et les sensations. Chez moi, ce sont des luttes. Ce sont des drames. On est en état de suractivité. Ce sont des batailles, des défenses. C'est un univers complètement différent du sien. Et exprimé, évidemment, tout à fait différemment. Mais immédiatement, on nous a comparés. Vous savez, on ne fait que comparer les femmes entre elles, toujours, toujours. C'est un véritable désastre. Encore récemment, j'étais à Stockholm, et on me demande quelle ressemblance y a-t-il entre moi et Marguerite Ursner. Et je dis, il y a une immense ressemblance, c'est que nous sommes toutes les deux des femmes. Mais je dis, il y a une ressemblance encore beaucoup plus grande entre elles et Marguerite Duras, parce qu'elles sont à la fois des femmes, et elles s'appellent Marguerite, toutes les deux. Parce qu'autrement, il n'y a rien. Il n'y a rien de commun, ni entre elles deux, ni entre moi et elles, rien. Absolument rien. Il n'y a pas d'élément de comparaison. C'est autre chose complètement. Il y a un autre tempérament, d'autres univers, enfin rien. Mais il faut qu'on nous colle ensemble. C'est affolant. Affolant. Chaque écrivain a un univers qui est à lui, homme ou femme, et qui est une sorte d'absolu où il est enfermé, si c'est un véritable écrivain. Et peu importe son sexe, son âge ou son appartenance, c'est un monde à soi. Alors les femmes, d'abord, ont beaucoup contribué à ça parce qu'elles ont eu cette idée folle d'écriture féminine dans laquelle elles se sont mises, elles ont créé leur propre ghetto parce qu'il y a très peu d'écrivains femmes et que par conséquent elles se sont mises à l'écart des hommes non seulement en tant qu'écrivains mais même en tant que lecteurs, parce que je leur disais mais alors si vous admettez que vous avez dans ce domaine là une sensibilité, une intelligence si différente, vous n'avez pu lire d'une manière valable que Madame de Lafayette, Madame George Eliot et les Brontë, et je ne sais pas encore, on peut les citer sur les doigts de la main. Baudelaire ou Shakespeare, vous êtes à peu près fermé, puisque c'est fait par des hommes. Alors comment vous préparez à écrire, même, avec quelque chose d'aussi borné? Et puis, parce qu'on considère que, déjà, quand la femme fait quelque chose, c'est tellement étonnant que ça ne peut être que émanation de sa féminité. Pour moi, quand je lis Les Hauts de Hurlevent, je ne pense pas que c'est une femme qui l'a écrit. Je pense à rien. C'est un auteur, un écrivain, c'est tout.
Nous venons d'entendre donc successivement Anne Sylvestre avec Frangine et puis la voix de Nathalie Sarraute qui évoquait Virginia Woolf dans une archivina datée du 11 mai 1985, c'était au micro de Kay Mortley. Et si nous avons choisi cette archive, Nathalie Azoulay, c'est parce que vous avez traduit, vous n'êtes pas seulement écrivaine, vous êtes aussi traductrice. Et vous avez traduit un texte difficile à traduire de Virginia Woolf, Mrs. Dalloway. Et d'autre part, Nathalie Sarraute vient de parler, je crois à juste titre, même si c'était en 1985, je pense que le combat, même si c'est un peu amélioré pour les femmes écrivaines, c'est vrai qu'on a tendance à mettre toutes les femmes écrivaines dans le même sac. Donc deux thématiques pour vous, est-ce que vous avez l'impression que être femme écrivaine vous distingue des autres, ou est-ce que vous pensez que ça va mieux maintenant que du temps de Nathalie Sarraute, où on l'a comparé à Ursenar ou à Marguerite Duras? Et d'autre part, la figure de Virginia Woolf, pourquoi l'avez-vous choisie pour essayer de trouver un pont de résonance en retraduisant ce texte?
Alors, j'ai choisi de retraduire Virginia Woolf parce que c'était un auteur qui avait été un peu... au départ de ma vie de lectrice et même d'écrivain, et qu'elle avait été très fondamentale. Je ne sais pas très bien pour quelle raison, parce que je me suis rendu compte en la retraduisant que je ne l'avais pas très bien comprise à l'époque quand j'avais une vingtaine d'années et que je l'ai beaucoup mieux comprise aujourd'hui. J'avais envie de me mettre dans ses pas, d'entrer vraiment dans sa langue et de voir, de la voir au travail en fait. Quand on traduit un auteur, on le voit au travail, on voit ses difficultés, on voit ses tentatives et on voit évidemment ses réussites. Et traduire ce texte, en effet assez difficile, m'a permis de comprendre beaucoup mieux de l'intérieur l'univers de Woolf. Et ce que dit Nathalie Sarraute, et qui est très juste, c'est que contrairement à son univers à elle, qui est plutôt fait d'interactions entre des personnages, donc elle parle de lutte, etc., ces fameux tropismes, chez Virginia Woolf, il y a une conscience qui s'ouvre, et il n'y a pas, il y a de l'interaction évidemment, mais il n'y a pas beaucoup, il n'y a pas que de l'interaction, il y a beaucoup de solitude, beaucoup de contemplation, beaucoup de méditation, et beaucoup de poésie qui vient de l'observation. Donc, c'est pas exactement la même façon de prendre la langue et de prendre l'écriture. Mais oui, je souscris à ce qu'elle dit, mais la pauvre Nathalie Sarraute, à son époque, il y avait peu d'écrivains consacrés comme elle. Donc finalement, on les collait toutes ensemble, même si elles n'avaient pas grand-chose à voir. Moi, ça ne me gêne pas qu'on me mette, qu'on me compare à d'autres écrivains féminins. Peut-être qu'il y aurait moins de problèmes si on disait écrivain et pas écrivaine, parce que comme ça, ça sépare moins les hommes et les femmes. Mais ça ne me gêne pas. Aujourd'hui, il y a une variété d'écritures qui sont produites par des femmes. Moi, quand je lis un texte, contrairement à elle, je n'oublie jamais si c'est un homme ou une femme. Je pense qu'il y a quand même une part à prendre de ça et qui n'est pas du tout réductrice, au contraire. Mais bon, on n'écrit pas à la même époque, elle a traversé tout le siècle, et je pense que dans les années 40, les années 50, c'était difficile pour une femme écrivain de s'imposer, et notamment pour elle qui a évolué dans le monde du nouvel roman, où elle était quasiment, et même je crois, la seule femme, donc Marguerite Duras étant un peu à part. Donc elle a dû combattre, oui, elle a dû lutter, et aujourd'hui on a quand même gagné du terrain, donc... Je ne souscris pas à tout, mais je la comprends.
On va revenir à Ludwig Wittgenstein, qui est en exergue de ce nouveau livre « La fille parfaite », pour reprendre cette idée des côtés coupants des uns et des autres. On pense, et c'est aussi une thématique très importante de ce nouveau roman, on pense toutes et tous que l'amitié, c'est un réconfort, que c'est un refuge, que ça va permettre d'exprimer à l'autre avec un grand A tout ce qu'on pense et tout ce qu'on n'ose pas se dire à soi-même, en tout cas ce qu'on n'ose pas dire aux autres s'ils ne sont pas véritablement amis. On croit savoir qui sont vos amis, on pense qu'on le sait, que c'est une sorte de pré-savoir de quelque chose de prégnant à l'intérieur de votre personnalité, et quelquefois ça peut faire très mal l'amitié. Et c'est aussi vraiment la colonne vertébrale de votre livre. Encore une fois, c'est très difficile d'en parler à la radio parce que les personnes qui vont avoir le plaisir de le lire comprendront tout de suite pourquoi je ne vais pas aborder la thématique du livre. Mais par contre, ce que je peux vous faire écouter, Nathalie Azoulay, c'est une partie du dictionnaire philosophique, l'abécédaire de Gilles Deleuze, avec Claire Parnet, Cara A, qu'est-ce qu'il a mis ? Amitié, on écoute.
L'amitié, pourquoi on est ami de quelqu'un ? Pour moi, c'est une affaire de perception. C'est pas qu'on ait des idées communes, mais qu'est-ce que ça veut dire avoir quelque chose de commun avec quelqu'un ? C'est, je dis des banalités, là, on se comprend sans avoir besoin de s'expliquer. C'est pas à partir d'idées communes. Mais on a un langage commun, ou un pré-langage commun. Il y a des gens, je ne comprends rien à ce qu'ils disent, hein. Même s'ils disent des choses simples, même s'ils me disent « passez-moi le sel », il faut que je me dise « mais qu'est-ce qu'ils me disent là ?» Au contraire, il y en a, ils me parlent d'un sujet extrêmement abstrait, et je ne suis pas d'accord avec eux, je comprends tout ce qu'ils me disent. Bon, ça veut dire que j'ai quelque chose à leur dire, et ils ont quelque chose à me dire. Hein. Et ce n'est pas du tout la communauté des idées, qui, là, il y a un mystère. Ce fait d'avoir quelque chose à dire à quelqu'un, s'entendre si bien, sans idée commune, sans qu'on puisse ramener ça, j'ai une hypothèse, c'est que chacun de nous est apte à saisir un certain type, jamais personne ne saisit tous les types à la fois, un certain type de charme, il y a une perception du charme. Et qu'est-ce que j'appelle le charme ? Là, c'est pas du tout du truc où je veux ramener de l'homosexualité dans l'amitié, là, pas du tout. Mais un geste de quelqu'un, une pensée de quelqu'un, même si elle est avant qu'elle soit signifiante, hein, ou un geste de quelqu'un, une pudeur de quelqu'un. C'est des sources de charme, mais alors qu'ils vont tellement jusqu'à la vie, jusqu'à des racines vitales, que c'est comme ça qu'on devient ami de quelqu'un. Et si tu prends des phrases même de quelqu'un, il y a des phrases qui ne peuvent être dites que si la personne qui les dit est vulgaire ou ignoble. Un type de phrase, il faudrait chercher des exemples, on n'a pas le temps, puis chacun varierait d'exemples. Pour moi, pour chacun de nous, il y a des phrases. Si on entend une phrase de ce type, on se dit, mais, oh Dieu, qu'est-ce que j'entends là? Qu'est-ce que c'est, ce type mondice? C'est... faut pas croire qu'on puisse dire une phrase comme ça par hasard et puis la rattraper. Il y a des phrases qui ne peuvent pas. Et inversement, pour le charme, il y a des phrases, mais insignifiantes, qui ont un tel charme, qui témoignent d'une telle délicatesse que tu dis immédiatement, celui-là, il est à moi, pas au sens de propriété. Il est mien et j'espère être sien. À ce moment-là, bon, l'amitié naît. L'amitié peut naître. Donc, il y a bien une question de perception. Percevoir quelque chose qui vous convient ou qui vous apprend, qui vous ouvre, qui vous révèle quelque chose.
Nous venons d'entendre la définition de l'amitié par Gilles Deleuze, archive je trouve absolument extraordinaire. L'amitié, c'est le respect de l'autre, c'est la dévoration de l'autre. Est-ce que c'est une perception, comme vient de le dire Gilles Deleuze ?
Je suis assez d'accord avec l'idée qu'il y a un charme. Il y a un charme qui opère assez vite et qui fait qu'on se choisit comme ami. Et il y a une vraie séduction. Moi, j'accorde beaucoup d'importance à cette séduction dans l'amitié. Même s'il n'y a pas de sexualité, il y a quand même une relation qui est... oui, qui est une relation de séduction, de charisme et d'interaction nourrie d'affect, d'amour, de complicité. Donc c'est quelque chose de très fort, qui peut être très intense, l'amitié. Notamment quand elle démarre à l'adolescence. Et ce que j'ai voulu montrer dans mon roman, c'est que s'il y a tout ce charme qui opère entre Adèle et Rachel, il y a évidemment aussi toutes les dissensions qui peuvent fissurer l'amitié, la rendre tumultueuse, la rendre intermittente, provoquer des ruptures, des crises. Et comme c'est une amitié qui dure 30 ans, ou même un peu plus, évidemment, elle traverse des épisodes dramatiques, des épisodes de silence, des épisodes de séparation, comme une histoire d'amour finalement, mais avec des retrouvailles perpétuelles. Et ces retrouvailles, si elles ont lieu et si elles peuvent se produire même après de graves crises, c'est parce qu'il y a ce charme initial qui opère toujours et que Rachel est fascinée par Adèle, mais Adèle a besoin de Rachel pour s'exprimer dans le monde parce qu'elle sait très bien que elle vit dans un monde trop abstrait où ses capacités émotionnelles sont un peu bridées et Rachel est son bras tendu est posé sur le monde. Et donc le charme opère réciproquement jusqu'à la fin. Et c'est pour ça que l'amitié est intense, et c'est pour ça qu'elle résiste.
Quelle différence faites-vous entre l'emprise et la véritable amitié ? Parce qu'on peut dire aussi que ce livre, La fille parfaite, qui définit donc Adèle, parce qu'elle doit être parfaite aux yeux de tout le monde, de sa propre famille, de son mari, de son fils, et Rachel l'est beaucoup moins, et vous venez de le dire à travers vos mots, il y a eu une inégalité de sentiments. Vous dites Adèle a besoin de Rachel, parce que Rachel c'est la vie, et Adèle elle est plutôt dans le ciel des idées. Mais est-ce qu'elles sont véritablement à égalité? Est-ce que Adèle n'exerce pas un ascendant psychologique pour essayer de diriger souterrainement la vie de Rachel sans véritablement la respecter?
Je ne vois pas tout à fait les choses comme ça. Je comprends ce que vous voulez dire. C'est vrai qu'il y a un ascendant. C'est vrai que Rachel dit constamment qu'elle n'a pas accès à tout ce qu'est Adèle et qu'elle a le sentiment que Adèle a accès à elle. Donc comme s'il y avait une petite asymétrie entre elles. Mais ce que n'a pas Adèle et qu'a Rachel est fondamental et Adèle le sait. Et donc ce n'est pas accessoire. Je pense que Rachel dispose de forces qu'Adèle n'a pas ou n'a plus ou n'a jamais eues. Mais il y a une complémentarité qui est très forte entre elles. Et l'emprise voudrait dire que Rachel serait un peu victime d'Adèle, ce qui n'est pas la conception que j'ai voulu tramer dans cette histoire. En revanche, Rachel peut être épuisée par les exigences d'Adèle.
Elle
la fuit, mais Adèle la fuit aussi à un moment donné pour faire ce qu'elle a à faire. Et donc il y a un épuisement, une fatigue qui relève en effet de ce désir de perfection qu'incarne Adèle et que évidemment elle n'atteint pas puisque ce n'est pas accessible. Mais je ne parlerai pas d'emprise parce que Rachel est volontaire, parce qu'elle y va, parce qu'elle reste, parce qu'elle y gagne beaucoup quand même. Hein. Elle nourrit son œuvre littéraire à partir de ce qu'elle observe. Elle a un amour infini pour le petit garçon d'Adèle qui va venir combler un manque. Une emprise voudrait dire qu'elle y laisse des plumes, et je ne crois pas qu'elle y laisse beaucoup de plumes.
Chacun comprendra ce qu'il voudra, parce qu'à chacun ses histoires d'amitié, ce qu'on peut dire, c'est que finalement, on comprend pas très bien son meilleur ami ou sa meilleure amie. Et quelquefois, on n'y comprend rien du tout.
Oui, quelquefois c'est un nuage, un brouillard, mais il n'empêche qu'il y a de l'intensité, il y a de la passion, il y a de la complicité, il y a de l'apport mutuel et il y a de la vitalité. Et je crois que jusqu'à la fin, c'est une amitié hyper vivante qui opère entre ces deux filles. Mais c'est vrai qu'il y a une part de mystère un peu irrésolue et que dans l'amitié, il y a les bons sentiments qui s'affichent, mais il y a tout le souterrain où les zones d'ombre sont vraiment nombreuses et où on ne comprend pas toutes les actions de celui avec lequel on partage tant de choses. Mais ça, c'est la vie des êtres humains.
En tout cas, ce n'est pas dans les manuels de psychologie qu'on peut mieux élucider son rapport amical avec l'autre. C'est plutôt en allant au cinéma, voir les films d'Ozu, comme dans un de vos livres récemment publiés. Et c'est aussi en allant dans les musées. Car là, je ne vais pas enlever le plaisir que prendront les auditrices et les auditeurs en disant que finalement, Rachel va comprendre Adèle en allant au musée et en voyant un tableau de Giotto qui s'intitule « Le désespoir ». Qu'est-ce qu'elle va y comprendre là ?
Elle va y comprendre un message qu'elle n'a pas entendu. Elle va y voir une détresse qu'elle n'a pas su déchiffrer. Elle va justement avoir accès à ce brouillard où elle n'a pas su reconnaître les bons signaux au bon moment. Et elle va y puiser sans doute un peu de culpabilité. Mais ça va être le dernier message d'Adèle. Et un message qui va dire les choses sans les dire, c'est-à-dire qui va emporter avec lui le mobile de son crime.
Merci infiniment Nathalie Azoulay pour ce livre. La fille parfaite, c'est vous ?
Absolument pas.
En tout cas, le livre s'intitule La fille parfaite et il vient d'être publié aux éditions POL.
Yeah.
C'est avec le manège de November Ultra que nous allons nous quitter ce soir. Merci à Guillaume Roux qui est à la régie technique. Merci à Céline Villegas, Élodie Royer, Marie Mougin, Marie Clément. Merci à Jean-Baptiste Audibert pour ses conseils musicaux. Et merci à Lilian Allôme qui, comme chaque soir, a réalisé cette émission. Je rappelle que le dernier livre de Nathalie Azoulay s'intitule « Une fille parfaite » et qu'il vient de paraître aux éditions POL. Après le prochain journal d'information, vous avez bien sûr rendez-vous avec l'ami Mishka Sayas pour son Very Good Trip.